Comme vous le savez, l'hébreu, c'est une langue, tout comme l'arabe du reste, c'est une langue tout à fait particulière, parce qu'à l'écrit, elle est composée que de consonnes. Mais pour pouvoir la prononcer, il faut évidemment mettre des voyelles. Ce qui fait qu'en hébreu, vous avez beaucoup de mots valises. Il y a la même racine, les mêmes consonnes, mais avec des significations très différentes. C'est ainsi pour le mot langue, langue, le français, l'anglais, etc., la langue. La langue en hébreu, c'est aussi la rive, la berge. C'est ce qui donne, qui permet d'avoir à la fois une vision sur la mer, sur un fleuve, et une vision sur quelque chose qui est au-delà de cette mer, de ce fleuve. La berge. C'est intéressant de dire, tiens, le Seigneur a choisi pour manifester cette Pentecôte que chacun parle sa langue maternelle, son propre dialecte, c'est ce que nous disent les Actes des Apôtres, mais comprenne l'autre dans son dialecte et sa langue maternelle. On aurait pu s'attendre à autre chose. On aurait pu, par exemple, s'attendre, à la nuée. La nuée, qui guidait les Hébreux au sortir de l'Égypte, dans le désert, etc. On aurait pu s'attendre à des personnes qui aient des rêves, des songes, etc. Non, c'est à travers le langage que le Seigneur veut manifester sa Pentecôte, son Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est qu'une langue ? Une langue, c'est une vision du monde. C'est une manière d'envisager événements et personnes. Alors pour nous, notre langue française est une manière aussi d'envisager l'événement et personne. Alors on prend plus le conscience de ça quand on va dans des pays étrangers qui parlent d'autres langues que nous. C'est d'autres manières d'envisager les choses. Et au fond, la Pentecôte, c'est ne pas voir la différence comme une menace. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Vous vous souvenez, la tour de Babel ? La tour de Babel, c'est précisément l'inverse de ça. Il n'y avait qu'une seule langue sur la terre, qu'un chemin vers Dieu, qu'une tour qui rejoignait les cieux. Et la tradition juive dit qu'au fond, la tour de Babel, un tiers a disparu dans les sables. Un tiers s'est enfoui, a été réduit en poussière, mais un tiers demeure en chacun de nous. Cette toute puissance qui fait que je veux que ce soit ma manière de voir les choses, qu'une seule manière. Vous avez ça dans les grandes idéologies. Vous vous rappelez la devise du Troisième Reich, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un peuple, un empire, un chef, un. Vous vous rappelez aussi des signes des soldats de Daesh, comme ça. Un. Il n'y a pas la place pour d'autres. Une seule religion, une seule terre. Il n'y a pas la place pour d'autres. C'est en nous. Alors on le voit aussi dans notre attitude, cette toute puissance qui fait qu'on veut que la manière dont moi j'envisage le monde, c'est-à-dire mon langage, parce que c'est ça, la manière dont j'envisage le monde, ce soit la seule manière. Et l'Esprit Saint, justement, c'est autre chose. Il nous fait voir l'autre comme un rivage. L'autre est un rivage, c'est-à-dire l'autre est celui qui a aussi une vision sur moi. Celui qui est en face, sur l'autre berge, il me voit moi. Moi, je ne me vois pas agir, mais l'autre me voit. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il me voit. Quel regard il a sur moi. Quelle manière il a d'envisager ma propre culture à partir de sa propre langue, de son propre langage. Vous voyez, c'est intéressant, ça veut dire comment la Pentecôte, à travers ces langues où chacun à la fois dit « je » et à la fois dit « nous ». Ça, c'est le Saint-Esprit. Dire « je », c'est-à-dire on parle sa langue maternelle, on a une propre identité, mais on ne se raidit pas dans son identité. Et on voit bien aujourd'hui, hein, je vous ai cité des exemples d'idéologie mortifère, mais on voit bien une sorte de raidissement des identités. De voir l'autre, le langage de l'autre, la culture de l'autre, non pas comme une richesse, mais comme quelque chose qui vient déstabiliser ma propre culture, mon propre langage, ma manière de s'exprimer. C'est vrai au niveau des cultures, mais j'allais dire au niveau des personnes, chaque personne est un rivage. Chaque personne est un rivage. Chaque personne est une rive. Chaque personne a une manière d'envisager le monde, même si on parle la même langue maternelle. Et c'est là où le défi, au fond, du Saint-Esprit, c'est, ça vient revisiter nos relations. Ça vient revisiter nos relations. Parce que l'Esprit Saint, ce qu'il faut bien, il est relation. Il est relation. L'amour du Père et du Fils. Il est dialogue de sa nature. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit quand il descend dans une âme? Il la détend. Il la détend. Il la détend pour accueillir le langage de l'autre. Accueillir le point de vue de l'autre berge, de l'autre rive, que celui qui est à mes côtés voit et que je ne vois pas. Alors je trouve que c'est quelque chose qui est pour nous, en tout cas, une source de très grande joie de se dire, nous avons reçu cette grâce du Saint-Esprit au baptême. D'autres aussi la reçoivent, c'est important de le signaler. D'autres personnes non baptisées ont aussi le Saint-Esprit. Sinon, il n'y aurait pas de conversion, il n'y aurait pas de catéchumène. C'est bien des personnes qui mènent le monde de baptême, c'est bien le Saint-Esprit qui agit dans ces personnes. Donc, de dire que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs et nous fait rentrer en dialogue avec, nous fait rentrer dans, au fond dans la complexité humaine. Hein, ce n'est pas zéro ou un, ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas bon ou méchant. C'est-à-dire, nous sommes pluriels. Nous sommes complexes. La complexité humaine, et ce n'est pas facile de l'accepter. De l'accepter parce qu'on aimerait au contraire un monde tout simple. On aimerait un monde binaire. Ça, c'est facile. Mais ce n'est pas la réalité. Déjà, à commencer par chacun de nous, ce n'est pas la réalité. Donc, je trouve que c'est beau de voir comment le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, par ce moyen-là, on aurait pu envisager autre chose, mais c'est ce moyen-là du langage, avec la complexité et l'importance d'avoir des traducteurs d'une certaine manière, mais traduire, on peut parler le même langage, la même langue maternelle, mais on voit bien les difficultés de relation, de communication dans nos familles, dans les couples, dans les entreprises, dans la vie professionnelle. On parle le même langage, mais parfois on se dirait qu'on ne se comprend pas. Parce que justement, on n'est pas vraiment à l'écoute de l'autre, curieux de ce que veut l'autre veut dire. Curieux de son point de vue. Tu vois les choses autrement que moi. Ah oui, mais moi je ne vois pas du tout ça. Alors, tu ne me menaces pas, je te dis ce que je vois et sois curieux aussi de mon point de vue, mais de même que je veux être curieux de ton point de vue. Et ça, vous voyez, ce décentrement, ça c'est le signe du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on a lu dans l'Évangile. Hein. La parole que je vous ai donnée, elle est du Père qui m'a envoyé. Le Christ n'est que décentrement. Il envoie, il transmet la parole du Père. Il transmet, ça lui vient du Père. Et c'est là où vivre du Saint-Esprit et demander le Saint-Esprit dans nos vies, c'est certainement quelque chose auquel nous devons être attentifs, justement pour permettre que une fécondité, parce que l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie, c'est ce qu'on dit dans le Credo, l'Esprit Saint est Seigneur et qui donne la vie. Il permet une fécondité, parce qu'il permet une fluidité dans les relations. Il permet une fluidité dans les relations. Il permet une aisance dans la communication. Sans nier ce que je suis, en disant mon point de vue, mais mon point de vue n'est pas absolu. Mon point de vue n'est pas absolu. Et on voit bien des personnes radicalisées, il y a plusieurs manières d'être radicalisées, ont un seul point de vue, une seule lecture d'un seul texte. Le spirituel, lui, il est adossé à une bibliothèque. Bibliothèque, Bible. Il est adossé à une bibliothèque, le spirituel. Il est adossé à une multitude d'interprétations et riche de ces interprétations, transmises par sa propre tradition religieuse, comme nous avons par exemple les pères de l'Église, les saints qui nous ont aidés et nous aident à rentrer dans la parole du Seigneur, riche de ça, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Oui, je crois que c'est quelque chose de très, très beau de méditer sur le Saint-Esprit, parce que ça nous permet à la fois de porter du fruit, d'être fécond et de ne pas voir la différence comme une menace. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est le travail d'une vie. Ne pas voir la différence comme une menace. Parce que spontanément, j'allais dire « Oh, je suis pas d'accord avec toi, mais il y a une forme de raidissement. » Voilà, d'accord, exprime ton point de vue, etc. Et à force de dialogue, et dialogue, qui dit dialogue dit Saint-Esprit, à force de dialogue, de communication, eh bien, on rentre, on tente de rentrer, quand l'autre aussi est de bonne volonté, évidemment, dans le point de vue de l'autre. Et on voit bien nos souffrances dans nos relations, c'est l'inverse. L'autre se braque, est persuadé que son point de vue, c'est le point de vue, et n'accueille aucun autre point de vue. De toute façon, c'est vous qui avez tort. C'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est là où on nous demande le Saint-Esprit, et ce qu'on a chanté là, de façon vraiment très... Voilà, assouplis ce qui est raide. Assouplis ce qui est raide. Il y a les raideurs que nous avons dans nos relations, le non-accueil de l'autre, hein, assouplis ce qui est... baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Il agit comme ça. Et donc chaque fois qu'il y a un assouplissement, il y a chaque fois qu'il y a une guérison, chaque fois qu'il y a de l'eau versée dans le désert, eh bien vous dites, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et vous pourriez faire mémoire, nous pourrions faire mémoire dans notre cœur, des moments où l'Esprit Saint a été à l'œuvre dans nos vies. Il est et certainement de nombreux moments où le Saint-Esprit a été à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit. Peut-être que vous avez entendu parler de cette expression, les mouvements du Saint-Esprit. Et toute la vie chrétienne, c'est précisément être connecté à cet esprit qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme disait le grand Saint-Augustin. Être connecté à ce que l'Esprit-Saint travaille, il est au travail. Mon Père et moi, nous travaillons toujours, nous dit le Christ. Mais il travaille comment ? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Père et le Fils travaillent. Donc être connecté à ça, et ça, on voit bien que ça c'est un combat intérieur, parce qu'il y a plein de forces centrifuges qui nous emmènent loin du Seigneur, loin de notre intériorité, loin d'une dimension contemplative de nos vies. Parce que voilà, dans une forme d'affolement généralisé, d'hyperactivité, hein, l'activisme et perfectionnisme certainement sont des grands ennemis de la vie intérieure, Et je crois que c'est quelque chose qui doit être, sur lequel on doit être attentif, c'est de voir comment l'Esprit du Seigneur nous pousse, nous travaille intérieurement, et de le prier. C'est comme ça qu'on rejoint le Christ, c'est par son Esprit. Alors, je trouve que c'est une tellement belle fête, et puis plus ça va, plus je suis attaché au Saint-Esprit. Vraiment, je trouve que c'est tellement extraordinaire que nous ayons reçu l'Esprit du Seigneur, et parce que c'est vraiment, ça nous permet de dire Père, c'est dans l'Esprit qu'on dit notre Père, ça nous permet d'être des témoins du Seigneur, de parler le langage des hommes, hein, de parler de plusieurs langages, en tout cas, et on sait bien que 70% de notre expression est non-verbale, c'est un langage corporel. Donc, on va demander au Saint-Esprit de vraiment prendre au sérieux habitation en nous, c'est ce que dit saint Paul, hein, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit ? Bien sûr que oui, vos corps sont les temples du Saint-Esprit, pour ça qu'il y a un côté sacré du corps, parce que précisément on voit qu'il est, la demeure, il est aussi tabernacle. Il y a le tabernacle dans l'Église, mais il est aussi tabernacle, chaque personne humaine, hein, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et particulièrement quand on reçoit l'Esprit du Seigneur, bien on est la demeure de Dieu. Et quand on est demeure de Dieu, eh bien, du coup, on peut inviter d'autres à demeurer en nous. Et comment est-ce qu'on invite d'autres à demeurer en nous ? En les aimant. C'est comme ça. C'est en aimant que l'autre habite en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. On va demander à la Vierge Marie, parce que c'est une fête très mariale. Marie était là avec les apôtres au Cénacle. Vraiment, Marie, c'est celle qui prend soin des commencements. C'est peut-être aussi la vocation de la femme que de prendre soin des commencements. et notre vie va de commencement en commencement. Ben, on va demander à la Vierge Marie qu'elle vienne prendre soin de notre vie spirituelle, que nous puissions devenir les témoins de Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.